penser ma vie à me battre.
Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal.
J'ai passé ma vie à me battre.
Mesdames, messieurs.
J'ai passé ma vie à me battre.
Mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo!
Soyez-y, mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
60 minutes de lutte.
J'ai passé ma vie à me battre.
Avec Marc Blondin.
Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte professionnelle. Mon nom est Ensemble GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958.
Self-proclaimed Legend and the Suntan King.
Oh, le roi de Punta Cana qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Blondin?
Écoute, quand t'es en vacances, qu'il fait beau, t'as une belle place, t'es avec ta charmante épouse.
Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute.
Donc, ça peut pas aller mieux. C'est vraiment de belles vacances, j'en profite pleinement.
Donc, on peut parler aux gens du groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Les photos de ta ligne de bronzage vont être publiées prochainement, c'est ça?
Non, on parle de Simmania.
OK, hey, parle-moi de Simmania, justement.
Ben écoute, Simmania 2 qui aura lieu le 7 mai prochain à la brasserie L'Entêté Mirabel, présentée entre autres par Arubox et Recyclage de métaux Serge Brière. Écoute, il reste moins de 15 billets, fait que c'est sûr que ça va être sold out. J'espère que ça va l'être avant mon arrivée la semaine prochaine. Cette semaine, je vais même en vacances, je vais publier des vignettes des combats. Ça va très, très bien. Mais parlant d'aller très, très bien, Ensemble, quelle semaine pour les Québécois, entre autres, que ta prédiction, Sami Zayn, Kevin Owens, bravo.
Oui, ils sont serrés dans leurs bras vendredi soir à SmackDown. Je l'avais prédit sur le show du retour avec Martin Lemay. Mais quel moment! Écoute, tu l'as écouté comme moi. C'était émouvant. On avait les yeux mouillés.
Écoute, je l'ai parlé avec Pat Laprade, qu'on aura en entrevue plus tard dans l'émission. Puis on a avoué tous les deux qu'on a pleuré quand on a vu ce moment-là.
Wow! Tu mets ça où dans ton top 3 de moments touchants dans ta vie?
Non.
Non, OK, ça rentre pas dans le top 3. Puis, t'as PCO aussi. Quel week-end de lutte pour PCO au Mexique!
Écoute, tout était prêt pour l'épisode 106 de cette semaine, le quatrième de BPM. Et à un moment donné, j'ai vu ça passer, comme tout le monde. Je peux pas, il faut que j'essaie de rejoindre PCO qui m'en parle. Et ça faisait quelques heures qu'il était débarqué de l'avion. Alors, il était très généreux de sa voiture pour s'entretenir avec moi, me conter un peu comment ça s'est passé. Et en plus, aujourd'hui, avant qu'on enregistre, il m'a envoyé la présentation en mexicain lorsqu'il était backstage et qu'il a été surpris. Mais on va entendre ça tout de suite, suivi de l'entrevue que j'ai fait avec celui qui a été choisi le meilleur lutteur de ce tournoi triple A, au Mexique, PCO. On écoute ça.
El mejor luchador de la lucha libre World Cup 2023.
Y aquí está, mejor luchador World Cup 2023. Nada menos que, léelo aquí por favor, Guillén.
El ganador votado por las leyendas. PCO!
On est content de lui parler, notre ami PCO, qui a atterri récemment du Mexique. Et là, il est en train de manger dans une assiette silver en métal trempé, galvanisé, écrit Mexico dedans. Et là, la question, est-ce que c'est une salade qui est dans l'assiette ou une poutine, mon PCO?
Toujours ce qu'il y a de mieux pour le monstre. Toujours ce qu'il y a de mieux pour le monstre.
Donc, une salade.
Salade, des légumes, tout.
Alors, on sait que tu fais attention à toi. J'essaie de copier sur toi. J'ai de la misère. PCO, écoute, tu as gagné justement cette assiette-là. Je fais des farces. C'est quelque chose, l'honneur que tu as reçu.
Ah, je suis en train de faire le tour de la planète, là. C'est incroyable. Je pense que jamais aucun Québécois ou aucun... Je peux pas dire, là, il faudrait aller dans l'histoire pour savoir si un Canadien a déjà gagné ce prix-là. C'est le plus gros tournoi de l'année. T'sais, pour Triple A Worldwide, t'sais, qui est une compagnie reconnue mondialement, qui est une des plus grosses compagnies du Mexique, et même mondialement, là. Et c'est un honneur absolument incroyable. T'sais, meilleur lutteur du tournoi, puis il y avait du talent là-dedans. Là,
ah oui. Comme,
plein de gros noms, John Morrison de la WWE, Chris Daniels de All Elite Wrestling, Pentagon de All Elite Wrestling, Ali Joe Vikingo, qui est un gros high flyer présentement.
Et toi, dans ton équipe, l'équipe canadienne, tu avais le champion Impact, Josh Alexander, et tu avais, là j'ai un blanc de mémoire, là, Vampiro. Ben,
Vampiro, ouais, lui qui
avec qui j'ai travaillé à WCW, c'est ça. Ouais, et il y avait 8 équipes, ça a duré plus de 5 heures, cet événement-là. Toi, tu parles d'une 20 000 personnes, mais on va laisser Pat Laprade les compter.
Ouais, écoute, c'est dur à dire, le stade est plein. Écoute, des sièges, des fois, les gens arrivent un peu plus tard, mais... Par le temps que la nuit, tu sais, par le temps que le soir arrive, qu'on rentre dans le gros du spectacle, tu sais, c'est jam-pack, c'est les avions, les F-16 de l'armée mexicaine qui passent, l'armée mexicaine qui joue l'hymne national, c'est les légendes qui sont présentées, chaque pays avec les drapeaux, les porte-drapeaux, les filles qui tiennent les pancartes de chaque. Ça ressemble aux Olympiques un peu, la manière que ça commence, là. Et puis, c'est vraiment bien organisé. Chaque équipe avait son pick-up truck, son camion, avec les photos de l'équipe, avec un chauffeur attitré pour se rendre à l'aréna, pour revenir du stade, pour se rendre au stade, revenir du stade à l'hôtel.
Je veux savoir, c'est quoi le sentiment que tu as d'avoir été choisi le meilleur lutteur de cet événement-là?
Écoute, sur le coup, Josh Alexander, il me dit, écoute, il y a un post-show où on va remettre des awards, des trophées. Il dit, t'as peut-être des chances d'en gagner un. J'ai même pas mon saut de Team Canada. Moi, je m'en vais là sans aucune attente. Puis je suis en arrière du rideau d'un coup. Et le meilleur lutteur du tournoi, PCO. Je suis comme... C'est moi, ça. Vraiment surpris. Là, je sais que j'avais eu des belles performances. J'ai vraiment bien performé, mais j'avais aucune attente de réaliser tout ça, de ramener cette plaque-là avec moi dans mes valises. Parce que c'était de quoi que j'ai hâte d'installer chez nous. Là, cette belle plaque-là, c'est pas comme un championnat du monde, mais je te dirais que c'est... C'est pas loin. C'est un gros, gros prix pour moi. Je suis vraiment content.
En tout cas, je suis plus le seul qui est international. PCO aussi est international. Stalalalala. PCO, merci beaucoup de nous avoir donné cette entrevue à la dernière minute, mais on voulait en parler, c'est important. Salut, mon chum.
Hey, merci à tous les fans du Québec qui m'ont appuyé vraiment fortement là-bas. Merci, Marc.
On est à une semaine de WrestleMania, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événement de lutte au Québec. Drenuc, André Terrien est avec nous. Salut, Dre, comment vas-tu?
Je vais bien après avoir survécu une fin de semaine chargée de lutte.
Mais là, toi, tu survis à chaque fin de semaine. Tu ne fais que ça, voyager pour aller voir des shows de lutte.
Effectivement, je récupère le lundi, puis le mardi, je suis tout frais, tout flamme.
T'es un des seuls qui récupère les journées qui travaillent. Bon, c'est quoi qu'on a comme événement qui s'en vient le week-end prochain?
Comme tous les vendredis, la AWE, Attitude Wrestling Entertainment, présente leur gala High Voltage à Chicoutimi Nord. Les portes ouvrent à 20h, le gala est à 21h. L'admission générale est à 10$, VIP 15. Donc, toujours une belle soirée à passer à la AWE le 30 mars.
J'imagine que c'est encore à 21h.
Effectivement, ça ne change pas d'heure là-bas.
Tu vois-tu comment j'écoute tes chroniques, mon André? Hein? C'est incroyable.
Comme nos milliers d'auditeurs.
Qu'est-ce qu'on a ensuite ce week-end-là?
Ben, c'est avec le week-end de WrestleMania. Il y a deux organisations qui présentent des événements, dont la Northern Championship Wrestling, la NCW, qui présente Poison d'Avril au centre communautaire de Sainte-Thérèse. Pour les billets, c'est toujours sur le point de vente. Ça commence à 19h30. Donc, il y a deux matchs principaux sur cette carte-là. Donc, l'homme le plus fort du monde, Max Lemay, qui sera contre Gorgeous Mike. Et il y aura aussi un 3 contre 3, Marc.
Mes hommes.
GF et les Titans contre les Enfants de cœur.
Oui, monsieur, je vais être là autour du ring, m'assurer que les Enfants de cœur ne trichent pas.
Ensuite, c'est la New Wrestling Championship, mieux connue sous la NWC, qui sera au 7111 des Érables à Rosemont, le centre Saint-Barthélemy. Cette journée-là, il va y avoir le tournoi Éric Denis. C'est un tournoi par équipe où les finalistes remportent la coupe. Pour se rappeler à plusieurs personnes, Éric Denis, c'est un lutteur qui est décédé voilà une couple d'années, qui a marqué les jeunes à la région Hochelaga-Rosemont. Donc, la NWC, à tous les années, présente le tournoi par équipe à son nom. Il va voir aussi la nouvelle championne Alexia qui va défendre sa ceinture féminine face à Black Widow Eve.
Wow! Donc, de l'action le week-end de WrestleMania. Nous, on va se reparler le dimanche, donc avant la grosse soirée de Mania, soit le 2 avril prochain, la semaine prochaine. Et en terminant, comme tu le sais, André, parce que Drenuk, c'est mon scénariste, mon booker à Simmania 2, il reste quelques billets. Écoute, c'est entre 10 et 12 billets qui restent. C'est incroyable. Merci de votre encouragement. Faites vite également sur lepointdevente.com. Drenuk, bonne semaine et bon WrestleMania du samedi. On se reparle, nous, le lendemain.
Oui, pareillement. Ben, bon WrestleMania à tout le monde.
Salut la gang. Vous écoutez Marc Blondin à Soyez-y, mesdames, messieurs, mon nain de jardin préféré. Et n'oubliez pas, Sylvain Grenier, 4 fois champion du monde, n'est jamais bien loin.
J'ai passé ma vie à me battre.
Juste du vrai.
Soyez-y, mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
Mesdames, messieurs.
Avec Marc Blondin.
Give me a hell yeah!
Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée.
Ici Speedball Mike Bailey. Vous écoutez la seule vraie émission de radio québécoise sur la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs.
On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal. On parle souvent de WWE sur le podcast, mais il y a aussi All Elite Wrestling, une fédération fort intéressante aux États-Unis qui devient de plus en plus populaire. Et Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec Lufisto.
Oui, Lufisto qui, depuis la semaine dernière, est vraiment embarqué comme collaboratrice du Soyez-y, mesdames, messieurs. Et récemment, elle a été dans le derrière les rideaux, dans le backstage et dans les vestiaires de All Elite Wrestling. Et elle va nous parler de la division féminine, ce qui se passe là-bas.
Puis aussi, tu as eu la chance de t'entretenir avec Jean-François Kelly, la légende vivante, qui va nous parler des coulisses, de ce qui s'en vient à All Elite Wrestling. Les rumeurs, on parle même de Goldberg peut-être, donc je pense que ça va être fort intéressant ça aussi.
Ouais, quand tu dis que tu as eu la chance de parler avec Jean-François Kelly, tu pousses un peu. Mais OK, on va y aller tout de suite avec Lufisto All Elite Wrestling. On est content de la retrouver, notre chroniqueuse sur la lutte féminine, Lufisto, est avec nous. Et comme on a parlé la semaine dernière, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Tu as de l'air en forme, c'est bien.
Oui, toujours.
Écoute, la semaine passée, on en a jasé, Lufisto. On voulait rentrer un peu dans la division féminine de All Elite Wrestling. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que lutteuse féminine de cette fédération-là?
Ben, je peux en parler personnellement parce que j'ai été dans le vestiaire, c'est au mois d'avril passé. Et une des choses qui m'avait frappé était la division dans le sens de les filles étaient par groupe, ça se tenait pas ensemble, puis si tu te reculais un petit peu, tu avais vraiment l'impression qu'il y avait des frictions réelles dans le vestiaire. Donc, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est que moi, ayant vu ça depuis ce temps-là, je regarde la division d'un autre œil, puis je me demande aussi toujours si les gens qui nous écoutent voient... c'est ça, ce petit quelque chose. Souvent, on parle de comment ça va en arrière, se reflète à l'avant. Donc, je me demande toujours qu'est-ce que le fan moyen, qui n'a pas nécessairement vu ça de ses yeux vus, mais qu'est-ce qu'il ressent en regardant la division. Étant là aussi, backstage, j'ai vu que les combats, en général, c'est souvent les mêmes qui sont mis de l'avant. Ils ont beaucoup, beaucoup de lutteuses. Et quand j'étais là, ils étaient les premiers, dans le fond, les premiers combats à être coupés. C'était encore celui de femme. On avait l'impression qu'avec les années, c'était quelque chose qui avait changé. Mais quand j'étais là, je me disais, mon Dieu, non, c'est encore les femmes qui se font couper en premier. Ils se mettaient, tu sais, 4, 5, 6 dans le même match. Puis là, un match de 4 minutes, 2 minutes. Tandis que les gars, un, c'était plus long et ils raccourcissaient les matchs de femmes pour en donner plus de matchs d'hommes. En tout cas, pour ce qui était de Dark Elevation.
Mais je te pose la question. On entend souvent parler que la All Elite a signé trop de lutteurs. Donc, si je lis entre les lignes, c'est la même chose avec les lutteuses.
Définitivement. On dirait qu'ils ont comme 4 shows en même temps, puis 5 si on compte maintenant Ring of Honor. Et il y a des gens sur la liste de talents que tu vois quasiment pas. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. Puis, si tu n'écoutes pas les shows YouTube comme Dark Elevation, tu ne vois pas du tout que ce soit Rampage ou Dynamite. C'est souvent les mêmes personnes. Ça tourne autour de la championne qui est Jamie Hayter en ce moment. Britt Baker, toujours. Et à part ça, tu sais, c'est une là où il y a Jade en ce moment, tu sais, qui est sur sa lancée de se battre contre n'importe qui, puis justement de montrer son chiffre là, de match, tu sais, invaincu. Puis, mais sauf que pour ce titre-là, le titre TBS, ben, ils ont cette femme-là qui a un physique extraordinaire, qui est une superstar quand elle regarde, mais que point de vue lutte, c'est assez limité parce que tout simplement, elle n'a pas l'expérience. Puis, elle fait des matchs de 2-3 minutes, mais c'est pour un titre. Puis là, on se dit, elle dit souvent, tu sais, amenez-moi les meilleurs, mais elle n'a jamais même fait face aux meilleurs qui sont à la All Elite en ce moment. Donc, j'ai l'impression que ce qui est le booking de la division comme telle, c'est un peu garoché et que c'est comme, je dirais pas qu'ils se débarrassent, mais il n'y a pas quelque chose à long terme qui est pensé. Si on pense, je recule un petit peu en arrière, la feud qu'il y avait entre Thunder Rosa et Britt Baker, 3 matchs après ou 3 segments, si on peut dire, parce qu'il y avait des entrevues, ben là, ils se détestaient tellement qu'ils étaient rendus d'une cage. Il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas, on pense à la fameuse histoire du Bloodline qui s'étire depuis un an, qui fait que tu es intéressé au personnage, qui fait que Sami Zayn est devenu important. On n'a pas ça dans la division féminine. Et malheureusement, c'est un peu dans toutes les mêmes divisions féminines. Mais moi, la All Elite, c'est quelque chose qui ressort vraiment. Toujours les mêmes, des histoires rapides, des matchs à stipulation rapidement, mais un peu garrochés qu'on ne sait pas pourquoi. Ce qui manque à All Elite, c'est vraiment quelqu'un en total contrôle de cette division-là. Et ce que j'ai remarqué backstage, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont bien dans leur confort. Ils ne veulent pas bouger trop de choses quand la division aurait besoin d'être brassée, tu sais, de tout revirer à l'envers et de faire quelque chose de complètement nouveau. Mais bon, c'est ça.
Ben écoute, on est content d'avoir eu ce point de vue-là, surtout comme tu dis, tu as vu de tes yeux vus. Là, on va faire une pause d'au moins une semaine. te donner la chance parce que tu es très, très occupé le week-end prochain. Tu seras au New Jersey. Et lorsqu'on va revenir, on va te donner la chance de regarder WrestleMania et tu pourras nous faire une chronique sur ton appréciation de ce qu'on a vu du côté féminin à WrestleMania. Tu es d'accord là-dessus?
Tout à fait. Je vais regarder les combats, je vais les analyser puis je vais vous en parler.
Lufisto, merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine.
On est content de retrouver notre légende, votre légende vivante, Jean-François Kelly, pour nous parler de All Elite Wrestling. Comment ça va, JF?
Oh que oui, que ça va bien, Marc. Très, très, très heureux d'être encore ici sur BPM Radio, BPM Sport. C'est vraiment le fun d'avoir une émission de radio comme ça.
Moi, très, très heureux d'être encore à Punta Cana.
Ah, wow! Moi, je t'ai en Zoom présentement. On enregistre en Zoom. T'es bronzé, mon Marc. T'es bronzé.
Hey, il fait tellement beau. Hey, dis-moi, tu voulais me parler d'un lutteur à la All Elite qui accroche le public.
Oh, beau jeu de mots, parce que tu savais que je voulais parler de Hook qui accroche. Hook accroche. Donc, c'est comme ça qu'on traduit Hook. 24-0, mon Marc. 24 victoires, 0 défaite. C'est quand même toute une star. Comme tu le dis si bien, il accroche les fans. Il est vraiment, mais vraiment populaire. Un peu populaire comme l'était Goldberg à la WCW. Je fais un lien ici parce que Hook est sur une lancée gagnante. Goldberg a vécu toute une lancée gagnante à la WCW. Tony Khan, lui, c'est un très, très grand fan. Il a un énorme respect pour Goldberg. Et au tout début de la All Elite Wrestling, il voulait faire venir Goldberg dans sa fédération. Et maintenant, c'est peut-être le temps, parce que Goldberg, c'est un agent libre.
Oui, mais Goldberg, il est rendu à quel âge, GF?
56 ans, bien précise.
Bon, ben écoute, 56 ans, là, c'est pas jeune, là.
Pas jeune, mais regarde du côté du Québec, là. PCO, là, le MVP du Mexique, comme tu l'as dit la semaine passée en entrevue. PCO, lui, il est dans la cinquantaine et regarde qu'est-ce qui lui arrive, là. C'est un champion du monde. Ça peut être la même chose pour Goldberg.
Ouais, remarque que je n'avais pas pensé à ça. Bon point. Bon point. Tu voulais nous parler également de CM Punk.
Ouais, CM Punk. Donc, Goldberg, c'était un idole de Tony Khan avant qu'il lance la All Elite Wrestling. C'était la même chose pour CM Punk. Tony Khan voulait absolument également CM Punk dans sa fédération. Et maintenant, il ouvre, CM Punk ouvre la porte à un retour. Du moins, c'est pas tellement précis qu'est-ce qu'il a écrit, mais c'est tout comme si la porte était grande ouverte pour la All Elite Wrestling et Tony Khan de le faire revenir. Donc, la All Elite Wrestling, c'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a Chris Jericho qui est tout à fait contre un retour de CM Punk, mais CM Punk, d'après moi, il pourrait se retrouver également à la Ring of Honor ROH si son intention est bel et bien de revenir. La Ring of Honor, d'après moi, il va y avoir Bryan Danielson, et si on en ajoute en plus CM Punk, ça risque d'être bon, puis pas à peu près, là.
C'est incroyable comment chaque semaine, hein, tu arrives avec des nouvelles, puis des choses qui peuvent arriver. Ça brasse dans le monde de la lutte. Et tu voulais également nous parler de Stu Grayson.
Stu Grayson, c'est un Québécois. Donc, Stu Grayson, il faut être fier de lui. Il faut être fier de son partenaire de Dark Order, Evil Uno également. Les deux sont spectaculaires, des stars mondiales. Tout comme Angelo Parker et Matt Menard, qui font partie de la société appréciative de Chris Jericho. Donc, quatre grandes stars internationales à la All Elite Wrestling. Et ils sont Québécois. Stu Grayson, quant à lui, il a affronté John Moxley mercredi passé à Dynamite.
C'est pas rien, c'est pas rien.
C'était tout un combat, là. Il a performé, je dis bien, il a performé d'une façon magistrale. C'était incroyable comme combat.
Fait que là, ça nous fait une belle brochette de Québécois qui nous représentent là-bas, pas à peu près.
Ben oui, tout à fait. Quatre bons Québécois internationaux, là. Faut être fier.
Écoute, JF, je te remercie beaucoup. On va se reparler la semaine prochaine pour une autre chronique et peut-être que tu pourras mettre ton grain de sel pour WrestleMania également.
Ah oui, WrestleMania, ben je suis allé à 10 WrestleMania au total. Je pense que je vais parler de ça un peu. Mes expériences du passé en personne à WrestleMania. Puis vraiment, c'est comme tout le monde dit que c'est le Super Bowl de la lutte. Moi, je dis que le Super Bowl, c'est le WrestleMania du football. Tellement que j'adore WrestleMania.
C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne semaine, ma légende vivante.
Salut, mon Marc. Puis mets-toi de la crème. Là.
C'est sûr.
La foule est en délire, the fool is in the liar. Woo! avec Marc Blondin.
La voix de la lutte au Québec.
Soyez-y, mesdames, messieurs.
Non, messieurs!
BBM Sport.
Blondin, la route vers WrestleMania tire à sa fin. Dans une semaine et un, moins un jour, ce sera WrestleMania.
Écoute, c'est incroyable. Et là, on a gardé le gros de l'émission, bien sûr, pour parler de Mania. On a Philippe Leclerc, un de tes amis, qui va nous parler d'un de ses voyages à WrestleMania. C'est le dernier des quatre entrevues qu'on a fait avec des amateurs, des membres du groupe Facebook. On a Théo Bourras, qui est un des organisateurs du Wrestle Jam, qui aura lieu le samedi et le dimanche 1 et 2 avril. C'est au Château Royal à Laval où je serai. Il y a également Bertrand Hébert qui a choisi le meilleur WrestleMania, le plus gros selon lui. Il va nous en parler. Et bien sûr, notre ami Pat Laprade qui se prépare tranquillement à prendre son envol vers Los Angeles. Alors, place. Oui, mais ça qui est chanceux, lui. Moi, je suis pogné ici au soleil à Punta Cana. On commence avec Philippe Leclerc.
On a le plaisir d'avoir Philippe Leclerc avec nous, un autre membre du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, pour parler d'un de ses voyages à WrestleMania. Philippe, bienvenue sur le CIM.
Merci Marc de m'accueillir pour parler de cet événement qu'on appelle The Granddaddy of Them All.
Wow, que c'est bien dit. Écoute, tu me surprends en choisissant WrestleMania 18, pas pour le Mania, mais pour la destination. Les autres amateurs qu'on a eus depuis le début du mois nous ont parlé de la Louisiane, nous ont parlé de Miami, nous ont parlé d'Orlando. Toi, Toronto?
Oui, il y a des gens qui sont plus jet-set que moi. Moi, on dit toujours, selon le dicton, qu'on n'oublie jamais sa première fois. Ça vaut aussi pour WrestleMania. Moi, je suis mi-quarantaine, donc j'ai commencé à suivre la lutte à ton époque, Marc, 1986, avec la préparation du WrestleMania 3, un WrestleMania dont tout le monde se souvient, sauf toi, selon ce que j'ai entendu.
Exactement.
D'avoir vu cet événement-là en VHS quelques mois après sa diffusion, ben, ça a marqué l'imaginaire du jeune enfant que j'étais. À partir de ce moment-là, pour moi, voir un WrestleMania, c'était devenu un rêve. L'année suivante, à WrestleMania 4, j'avais assisté à une diffusion sur écran géant au Forum de Montréal. Donc là, c'est quelque chose qui se rapprochait un peu plus. Puis quand je suis allé voir un Monday Night Raw, Raw is War, en septembre 2001, en compagnie de la légende vivante Jean-François Kelly et de l'historien, le coy Pat Laprade. On parle d'un voyage quand même assez jet-set.
Mais, hein?
Dans l'après-midi de ce lundi, on avait été assister à une conférence de presse donnée par Carl DeMarco, qui était le président de la WWE Canada de l'époque, qui nous annonçait la tenue de WrestleMania 18 à Toronto. Alors là, mon rêve devenait tout proche d'être réalité. Je me souviens, au mois de novembre de cette année-là, me sauver d'une réunion dans une journée pédagogique pour aller acheter des billets. C'était un peu plus compliqué en 2001 même, acheter des billets sur Internet. J'avais réussi à avoir 6 billets, je pense, de mémoire. Donc, au mois de mars, on est parti. Puis, on avait décidé avec notre groupe d'amis de vivre l'expérience totale. Donc, nous, on est arrivé le vendredi à Toronto. On avait fait le Fan Access. Je pense que c'était dans les premières fois que la WWF donnait accès comme ça à un site qui était le palais des conventions de Toronto, où on avait des artefacts, il y avait des voitures détruites par Stone Cold Steve Austin, il y avait la fameuse statue de André le Géant qu'on voit.
Ben oui.
Et
ben
on avait la chance, en tout cas pour ma part, pour la première fois, de rencontrer des lutteurs. On avait eu la chance de se faire photographier en Polaroid avec Edge et Christian.
Ainsi Polaroid! Que... Et hey, boy, OK.
J'ai dit encore, moi, je suis pas un tripeux de souvenirs ou d'objets, mais j'ai encore ces deux photos-là. L'autre, c'était avec Jim Ross et le King Jerry Lawler. Donc, ça avait été vraiment une belle expérience. On avait vécu l'ambiance, puis là, ambiance et Toronto, ça va rarement dans la même phrase, d'un week-end là-bas. Donc, on avait beaucoup apprécié. Puis, ce dimanche-là va rester un moment marquant là, dans ma vie. De voir, nous, on avait été manger pas très loin du Sky Dome au restaurant de Wayne Gretzky.
Oui, monsieur, j'ai encore le menu, moi.
de voir la foule se diriger tranquillement parce qu'il n'y avait pas autre façon d'y aller qu'à pied tranquillement. 68 000 personnes qui se regroupaient dans le Sky Dome. Je ne pense pas avoir... à ce moment-là, je n'avais pas vu une foule aussi grande à l'intérieur. Puis de voir le décor, l'ambiance, la foule, c'était vraiment un moment décisif là, dans ma vie.
Il nous reste, Philippe, moins d'une minute. Fait que vas-y.
Ben, c'est sûr et certain que le match Hogan contre The Rock, où on a eu l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui s'est passé dans le ring, que pour la première fois, peut-être les plans avaient été changés de ce qui avait été scripté. Donc, on est reparti de là avec ce souvenir-là. Personne ne se rappelle trop des deux autres matchs qu'il y a eu après. Je me souviens de sortir de là avec sur un espèce de nuage en me disant « faut absolument que je retourne voir d'autres WrestleMania ». J'ai eu la chance d'aller voir WrestleMania 20 au Madison Square Garden, à l'endroit où tout avait commencé. C'est un moment aussi très, très historique pour moi. Puis, on est retourné aussi avec l'incroyable Handsome GF à WrestleMania 29, dans ce cas-ci au New Jersey. Donc, j'ai eu la chance d'avoir trois WrestleMania, un dans une aréna, la plus célèbre aréna du monde, le MSG, de voir dans un stade ouvert et dans un stade à ciel ouvert avec 80 000 personnes cette fois-là. Donc, je me considère assez chanceux. Je pense pas que mon histoire de WrestleMania est finie. J'espère peut-être en voir d'autres.
C'est ça, je m'en allais te poser. Est-ce que tu as espérance d'aller en voir un dans les prochaines années?
Ben, j'ai oui dire. Je pense que l'année prochaine, c'était à Philadelphie. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui serait possible. Pour ma part, étant père de famille, j'ai beaucoup de difficultés maintenant à partir pour des nuits à l'extérieur. Donc ce serait peut-être quelque chose qui serait plus proche de nous, puis qui sait-on, peut-être au Canada ou même au Québec.
Écoute, Philippe, merci beaucoup. Toujours très intéressant de t'avoir avec nous. Puis j'espère que tu continues à écouter le Soyez-y, mesdames, messieurs.
J'en manque pas un, Marc.
Alors, mesdames, messieurs, ça fait quelques semaines que je vous parle du Wrestle Jam qui aura lieu au Château Royal à Laval. Le samedi, le 1er, le dimanche, le 2 avril, dans le cadre du week-end de WrestleMania. Et j'ai Théo Bourras avec moi, un des organisateurs. Théo, bienvenue sur le Soyez-y, mesdames, messieurs.
Salut Marc, un gros merci de nous avoir avec toi aujourd'hui.
Ben, ça me fait plaisir. Écoute, moi, j'ai déjà confirmé ma place les deux soirs, le 1er et le 2, sur place à Laval. Je pense que je suis un fanatique des événements et je pense qu'on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir, les fans de lutte, ensemble. Parle-nous de ce que tu as à offrir au Wrestle Jam.
Ben, vraiment, l'idée, Marc, c'est d'avoir un événement pour familial, pour avoir des familles ensemble les deux jours de WrestleMania. Évidemment, on veut écouter le show dès 20h, mais avant ça, on voulait faire quelque chose de local. Donc, on va avoir des gars comme Green Phantom, Zach Patterson, JT Producer qui vont être dans un ring en direct, live, où il va avoir un show d'à peu près 90 minutes avant. Il va avoir de la musique en direct, il va avoir un paquet de choses pour la famille et avoir une belle expérience pour après écouter WrestleMania en direct.
Donc, tu as réuni à peu près tout ce que ça prend pour créer un événement d'envergure. Tu as oublié de mentionner que Marc Blondin sera là pour signer, dédicacer les copies de son livre « La grande histoire de ma petite vie ». J'ai bien hâte de rencontrer les gens. Côté musical, j'ai vu passer de quoi? Qui vous avez booké?
Écoutez, on a Drowning in Blood qui sera là, puis peut-être il va y avoir une autre surprise aussi. On attend quelque chose de dernière minute, mais je pense que ça va valoir la peine.
Et tantôt, tu m'as parlé, Théo, qui était pour avoir de la lutte live. Donc, c'est une grande salle. Moi, je connais beaucoup le Château Royal pour avoir fait plusieurs événements. Donc, dans cette salle-là, il va y avoir un ring de lutte, il va y avoir un stage avec un band, il va y avoir les écrans géants pour WrestleMania. Et j'imagine qu'il va y avoir de l'alcool.
Absolument, il va y avoir l'alcool, il va y avoir la possibilité d'acheter de la nourriture. On veut vraiment faire quelque chose clé en main, comme on dit, où le monde pourra vraiment avoir un good time puis être un peu partout, faire des différentes choses. Évidemment, rencontrer Marc Blondin avec le livre, faire le tout, avoir deux belles soirées.
Écoute, côté bouffe, je pense que j'ai parlé avec Christopher, un de tes partenaires là-dedans. Les gens n'ont pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas des steaks au poivre, ce n'est pas du filet mignon qu'on va offrir. C'est de la bouffe que moi, dans mon temps, j'appelais de la bouffe de cage au sport, malgré qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Là. C'est ça, c'est du fun food, là, c'est ça?
Exactement, exactement. Ça va être la bouffe pour des fans de lutte. Ça va être quelque chose. Et puis avec l'alcool, c'est un bon combo.
C'est bon. Maintenant, le prix des billets, je pense, en tout cas, moi, j'ai été très surpris parce que pour un événement d'envergure comme ça, c'est très raisonnable.
L'idée, vraiment, Marc, c'était d'avoir le monde être capable de, comme dans une game de baseball, tu peux prendre ta famille et aller à 4 personnes. C'est 30 $ pour les 2 journées pour un adulte et 20 $ pour un enfant de 12 ans et moins. Donc, on veut, avec 100 $, si tu as 2 enfants et ta femme, tu peux passer 2 soirées. C'est raisonnable pour nous. L'idée, ce n'est pas de gouger puis charger. Nous, ce qu'on veut, c'est rassembler les fans de lutte de Laval, de Montréal, puis avoir un bon turnout parce que le plus de monde qu'on va avoir, l'expérience va être meilleure pour tout le monde. Donc, l'idée, c'était vraiment ça.
Ça, c'est sûr. Et puis, faut terminer, Théo, en disant que tu n'es pas obligé de manger sur place. Tu n'es pas obligé de boire sur place. C'est sûr que tu n'as pas le droit d'amener ta boisson comme dans n'importe quel événement. Tu n'arrives pas là que ta boîte à lunch, là, puis ça se fait pas. Mais je pense que les gens savent comment ça se passe dans un événement. C'est donc samedi et dimanche. Ça s'en vient, c'est ce week-end au Château Royal de Laval, Wrestle Jam. Je vous rappelle, un band peut-être plus... Sur stage, il y aura les écrans géants pour voir WrestleMania les 2 soirs. Il y aura également un ring de lutte avec des lutteurs. On en a mentionné quelques-uns, entre autres Green Phantom et notre chum Zach Patterson. Il y en aura d'autres. J'y serai sur place. Alors Théo, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et bon succès à Wrestle Jam! Alors, on est content de le retrouver, Bertrand Hébert, pour une dernière chronique sur Mania, du moins sur le côté historique. On est à moins d'une semaine de l'événement. Et la semaine dernière, il nous a teasé, nous a agacé en disant qu'il parlerait de WrestleMania 17, qui est un point crucial dans le temps et, selon lui, le meilleur Mania de tous les temps plutôt. Alors, Bertrand, bienvenue encore une fois sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. J'espère que tu vas bien et ça m'intrigue.
Bien oui, bienvenue au cours d'histoire avec le professeur. Si on est pour être le professeur, on va appeler ça le cours d'histoire. Écoute, WrestleMania 17, c'est un point important dans le temps, dans l'histoire de la lutte, parce que c'est possiblement le moment jusqu'à tout récemment où la lutte avait connu son maximum de popularité. En termes de paire de yeux sur le produit, on atteint les sommets de l'Attitude Era. Avec Stone Cold et le Rock. Et c'est aussi le dernier Raw avant Mania, c'est le Raw où Vince McMahon nous annonce qu'il achète la WCW.
Et donc, que moi, je perds ma job.
Oui, et que Marc perd sa job. C'est la fameuse diffusion en simultané de Raw et de Nitro qui vient conclure, si on veut, la première partie de la vraie guerre entre les deux compagnies. Et c'est vraiment là, il y a une perte de popularité, puis il y a une partie des amateurs de lutte qui vont disparaître à partir de ce point-là dans le temps. Et au niveau des critiques, financièrement, la WWE va à ce moment-là connaître une année exceptionnelle, tellement exceptionnelle que la fermeture du restaurant à New York, qui coûte plusieurs millions à la compagnie, la fermeture de la XFL pour la première fois, qui coûte plusieurs millions à la compagnie, va presque pas paraître dans les colonnes de pertes, tellement les profits de la compagnie sont exceptionnels pour cette période-là dans le temps.
Est-ce que ça, c'est dû au départ et à la disparition de la WCW?
Bien, le fait de perdre la compétition, ça a un impact. Hein? Tout se rassemble autour du produit de la WWE pour une certaine période de temps. Malheureusement, à l'exception du pay-per-view Invasion qui va suivre WrestleMania, on va un peu perdre le fil là-dedans. Hein? Les vieilles rivalités à l'interne vont faire qu'on ne veut jamais donner l'avantage à la WCW, puis tranquillement, ça va s'estomper, là, parce que le temps que Survivor Series arrive, c'est déjà fini. Donc, là-dessus, on n'a plus jamais revécu quelque chose qui se rapproche de ça. TNA, Impact ont essayé de compétitionner, ça n'a pas fonctionné. All Elite se maintient, mais ne compétitionne pas comme la WCW le faisait.
Il y a aussi eu l'histoire de McMahon contre McMahon.
Exact. C'est aussi ça. Hein? C'est Shane McMahon qui finalement annonce à la fin de Nitro qu'il a acheté la WCW. On termine l'histoire de la WCW avec Shane McMahon dans le milieu du ring qui annonce qu'il a volé l'achat de la compagnie à son père. Ce qui va nous conduire à cette fameuse rivalité. Et déjà, il y avait un match d'annoncé Vince contre Shane à WrestleMania qui aura en toile de fond ce rachat-là de la WCW. Donc, ça, au lieu d'être un point culminant dans leur rivalité, ça va être le début d'une rivalité qui va ensuite voir Stephanie McMahon arriver avec la ECW. Et ce qu'ils vont appeler la coalition ou l'union, là, si ma mémoire est fidèle, ce qui va aussi diluer un petit peu l'histoire là, de la rivalité WCW contre WWE. Mais bon, la pire chose qui se produit dans ce show-là et qui va faire qu'on atteint un sommet puis ensuite on va commencer à redescendre la montagne, c'est Steve Austin contre The Rock. C'est les deux plus grosses vedettes de cette époque-là. Parce que bon, les gens qui me diront Goldberg, je vous dirais que Goldberg arrive peut-être troisième. Il n'y a pas de doute là-dessus. Stone Cold et The Rock sont les deux plus grosses vedettes de cette période-là. Et c'est le combat revanche de l'an dernier. On est de retour dans un stade pour la première fois à Houston. C'est un gala exceptionnel. Par contre, peut-être par manque de confiance, anxiété, à ce jour, Stone Cold nous dit que c'est une erreur. Moi, personnellement, je le savais sur le coup, je pouvais pas croire que c'est ce qu'on nous donnait. À la fin du combat, Stone Cold se retourne contre les fans et rejoint le méchant Monsieur McMahon. Tout le personnage de Stone Cold, toute la montée de leur attitude était basée sur ce personnage qui était anti-autorité, que tout le monde pouvait se rallier derrière le gars qui dit à son boss « Va chez le diable ». Puis là, je suis poli. Et là, c'est comme si on nous avait dessoufflé notre ballon.
Une douche froide.
Une méchante douche froide. Et je pense que comme amateur de lutte, on s'en est jamais vraiment remis parce que Stone Cold, c'était nous. C'était nous qui se rebellions contre notre emploi, contre tous nos problèmes dans notre vie, contre notre patron. Et là, il nous a comme trahis. Puis ça fait mal. Il est revenu l'année passée, mais même ça, moi, j'ai pas le même feeling que j'avais avant la fameuse poignée de main avec Vince McMahon. Je pense que c'est pas un endroit où on aurait dû aller. Je pense qu'on voulait recréer Hulk Hogan qui retourne comme avec la NWO. Puis malheureusement, ben, on a manqué notre coup.
Bertrand Hébert, merci de nous avoir accompagnés depuis 4 semaines en parlant de WrestleMania. Je t'en souhaite un bon le week-end prochain et on va se reparler sous peu, mon cher ami.
Excellent. Bon WrestleMania, tout le monde.
La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
Notre chroniqueur, mon ami Pat Laprade, je voulais te dire ça, sur la plage ici à Punta Cana, j'ai ton livre de Mad Dog Vachon. Coudon, la photo en arrière de toi, c'était-tu ton bal de finissant?
Hey, mes photos d'auteur, là, Marc, là, on dirait que je suis jamais satisfait à 100%, mais bien content que tu te payes une petite lecture comme ça. Au soleil, alors que nous, on est dans la pluie et dans un printemps qui tarde à venir.
Tu vois, juste rapidement, mon épouse Jacinthe a dit, je le reconnais pas, il n'a pas son veston carotté.
Ah non, non, ça, ah oui, je ne l'avais pas à l'époque, mais ah oui, particulièrement la photo sur ce livre-là, c'est une des pires photos que j'ai eues de ma vie. Mais bon, hein, c'est un bon livre, c'est ça l'important.
Exactement, c'est le contenu. Dis-moi, quel beau moment, et enfin c'est confirmé, Sammy et Kevin.
Oui, exactement. Hein. On en a parlé d'ailleurs sur la toute première émission qu'on a eue à BPM de Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Kevin Owens et Sami Zayn se sont enfin réconciliés. Ça a été un moment touchant jusqu'à un certain sens vendredi dernier à SmackDown parce que...
Je veux juste te dire, je te coupe là, j'ai pleuré. Je l'ai écouté ici et j'ai pleuré.
Écoute, j'ai pleuré moi aussi. Ils sont venus me chercher, les Thorieux. Tu sais, je les connais depuis 20 ans, là. Fait que ça vient peut-être me chercher encore plus, mais je suis content de savoir que j'étais pas le seul. Mais c'était vraiment un moment touchant. Quand Sami Zayn va voir Kevin Owens et lui dit, ah, regarde, on n'est pas juste amis, on est des frères. Je t'aime. C'est comme, tu sais, moi, j'ai voyagé avec eux, je les ai vus graduer, je les ai vus évoluer dans ce milieu-là. Puis je le sais qu'il y a un véritable là, affection, amour entre les deux. Tu sais, c'est plus que des amis, tu sais, après toutes ces années-là. Puis, bien évidemment, dans le scénario, il fallait que ça arrive à un moment donné. Puis tu as vu la foule à Kansas. La foule à Kansas, pas celle de Montréal ou de Québec. À Kansas, ils ont réagi de cette façon-là. Puis on a enfin officialisé au Raw suivant le match contre les Usos pour les titres par équipe à WrestleMania. Maintenant, la question, est-ce que ça va être la finale ou ça ne sera pas la finale du premier soir de WrestleMania? C'est ça qu'on se demande. Moi, je pense que ça a tous les atouts pour l'être. C'est Cody en finale contre Roman le deuxième soir et puis Kevin et Sami contre les Usos le premier soir. C'est juste logique pour moi.
Un gars qui m'a vraiment impressionné au Royal Rumble, Gunther, connaît maintenant pas son, mais ses adversaires pour le titre intercontinental.
Absolument, absolument. Ça va être Sheamus et Drew McIntyre. On parle souvent de la chimie que Kevin Owens et Sami Zayn ont ensemble. Et ce qui se rapproche le plus de cette chimie-là à la WWE, c'est Drew McIntyre et Sheamus. Chaque fois que les deux s'affrontent, ça fait des bons combats. S'ils sont en équipe, ils sont sur la même longueur d'onde. Pour vrai, c'est vraiment le fun de les voir interagir ensemble, peu importe la façon dans le ring. Alors, je crois que c'est une excellente décision de les envoyer contre Gunther. Gunther, qui soit dit en passant, a le règne de champion intercontinental le plus long depuis, sais-tu qui?
Honky Tonk Man. Je m'en allais te dire ça.
Honky Tonk Man, imagine, il est encore loin du règne d'Honky Tonk, oui, mais c'est quand même quelque chose. Là, on est à 285 et des poussières, 286-87 dans ce coin-là, jour. Donc, c'est pas rien. Donc, ça va être un gros combat de poids lourd. Tu sais, pour ceux qui s'ennuient de la lutte des années 80 avec des gros bonhommes, là, ben là, on a des gros bonhommes qui sont agiles, puis ont du talent, puis ça va être tout un match qui pourrait voler le show et voler la fin de semaine au complet.
Et là, tous les auditeurs vont être jaloux. Pat, tu prépares ton voyage pour Mania.
Bon, évidemment, toi, tu dis ça, les pieds sur la plage à Punta Cana, tu sais.
Ouais, vite
de même. Mais oui, la semaine prochaine, ben, en fait, dans quelques jours, jeudi, je vais quitter pour L.A. Ça va être, c'est toujours une fin de semaine. Je veux pas dire épuisante, mais c'est sûr que je suis pas là juste en touriste. Tu sais, il y a un média junket où je vais interviewer des lutteurs. Il y a des entrevues que je fais ici au Québec, mais en direct d'Ali. L'année passée, je me rappelle plus combien d'entrevues j'avais fait. J'ai un blog par jour à écrire. Tu sais, j'ai beaucoup de travail à faire quand je suis là. Mais évidemment, là, c'est Ali, c'est le beau temps, c'est la chaleur. Mettons, c'est différent que d'aller à Détroit ou à New York, tu sais, à ce temps-ci de l'année. Donc, ça va être une belle fin de semaine. WrestleMania 39, puis on pourra s'en reparler davantage la semaine prochaine, peut-être en direct de là, en fait.
Hey, ça va être ça, c'est sûr. Pat Laprade, merci beaucoup et bon voyage à LA, mon ami.
Yes.
La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
Mesdames, messieurs, je fais une incursion dans l'épisode 106. Numéro 4 de BPM Sport pour une nouvelle de dernière minute avant la fin de cette émission. Notre champion Impact Wrestling, Josh Alexander, qui devait défendre son titre contre Macklin à Rebellion à Toronto le 16 avril prochain, ben, il doit remettre sa ceinture puisqu'il va subir une opération au triceps. Il s'est blessé et ainsi se termine son règne, du moins pour l'instant. Et ce qu'on a annoncé du côté de Impact Wrestling, c'est que Steve Macklin sera toujours de la carte et défendra le titre face à Kushida. Quand je dis bien sûr défendra, les deux s'affronteront pour savoir qui sera le nouveau champion Impact Wrestling, nouveau champion mondial. Alors, c'est certain que la semaine prochaine, Handsome JF va nous redonner Plus de détails sur ça, sur Rebellion, de retour à l'émission en cours. Wow, comme dirait Handsome GF, incroyable. Je ne le dis pas de la même façon que toi. Vas-y
non,
donc.
Non, je vais te le dire. Incroyable. Mais c'est ce que j'allais dire. Quel bloc exact. Sur WrestleMania.
Eh oui, écoute, c'est vrai, on arrive là. Handsome, moi, je barque de l'avion jeudi le 30 et on va être là, là. C'est le week-end qui s'en vient. As-tu planifié ce que tu voulais faire pour Mania, toi?
Écoute, on a le 1er avril, nous, on est à la NCW.
Je vais être là avec toi, mon champion.
Oui, je vais être là dans un combat 3 contre 3 et tu vas être à mes côtés. Donc, d'après moi, la victoire, c'est dans la poche. Puis ensuite, on va écouter WrestleMania peut-être là-bas avec les boys. Et le lendemain, toi, t'es où pour WrestleMania?
Moi, je suis toujours à Wrestle Jam. Je vais être là, même le samedi, le premier, je vais être là en début de soirée. Ensuite, je m'en vais préparer mes troupes, dont toi, à la NCW. Le lendemain, je retourne voir la grosse soirée de Mania. Mais là, si je me demande, ça va être, laquelle des deux va être la plus grosse? Mais en tout cas, ça devrait être intéressant. Ça va être une semaine de vacances et on va se préparer vraiment pour le gros week-end de l'année, le Super Bowl de la lutte.
Hey, avant de terminer, Marc, tu voulais glisser un mot sur le groupe Facebook, d'inviter les gens à se joindre à ce groupe élite.
Oui, parce qu'à chaque semaine, on n'arrête pas de rajouter des nouveaux membres. Alors, allez sur Facebook, groupe, soyez-y, mesdames, messieurs, demandez à être intégrés à nos presque 3000 membres. Wow. Et vous allez être vous impliquer dans l'émission et tout ça, ça va être vraiment intéressant. Et aussi, je vous rappelle que mon livre est disponible sur la boutique en ligne Sim.shop. Ça s'appelle « La grande histoire de ma petite vie ». Et bien sûr, le gros titre, c'est « Soyez-y, mesdames, messieurs ».
Et de quelle façon on termine ça, un podcast qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs ».
Je te dirais pas mal comme « Soyez-y, mesdames, messieurs ».